Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Laura Slimani, conseillère municipale à Rouen, membre de Génération. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le président Macron a annoncé la semaine dernière un plan pour lutter contre la pauvreté, un plan qui est notamment axé sur la jeunesse. Vous avez réagi en accusant le chef de l'État de cynisme. Vous n'avez pas le sentiment que les familles les plus modestes vont voir leur situation s'améliorer grâce à ce plan ?
Non, pas de manière significative. En tout cas, évidemment, on ne peut pas être contre des mesures qui vont permettre à des enfants d'avoir accès au petit déjeuner le matin, par exemple, ou mettre en place des projets innovants en direction des personnes en situation de pauvreté. On ne peut pas être contre ça. Par contre, moi, ce qui m'insurge, ou en tout cas, ce qui m'insurge, c'est que ce plan ne répond pas à la véritable problématique, d'abord, qui est celle des revenus des personnes en situation de pauvreté, parce qu'aujourd'hui, le RSA ne permet pas de vivre dignement, ne permet pas de nourrir ses enfants, ne permet pas de vivre dans un cadre décent, surtout quand on connaît les prix des loyers, notamment dans les grandes agglomérations et particulièrement à Paris et en Île-de-France. Et donc, il y avait une attente forte sur cette question du pouvoir d'achat qui n'a absolument pas, qui a été balayée d'un revers de la main. Et on nous explique par ailleurs que la solution à la lutte contre la pauvreté, c'est de remettre tout le monde sur le chemin de l'emploi. Mais il faut être... Enfin, et il y a quelque chose de cynique effectivement là-dedans, dans une société qui ne crée pas d'emplois, qui crée très peu d'emplois, qui crée des emplois très précaires, de dire aux personnes pauvres, trouvez un emploi et ça ira mieux. Parce que d'une part, non, ça n'ira pas forcément mieux. Et aujourd'hui, vous avez une grande partie des personnes dans les centres d'hébergement qui travaillent, des personnes qui travaillent et qui n'ont pas de logement, qui vivent dans leur voiture par exemple.
Les travailleurs pauvres.
Voilà, des étudiants qui vivent dans leur voiture. Et par ailleurs... c'est cynique de dire à des personnes qu'elles vont trouver un emploi dans une société, encore une fois, qui n'en crée pas, et notamment pour les personnes qui n'ont pas de qualification, ou qui ont peu de qualification, ou un faible niveau de qualification. Donc voilà, c'est pour ça que c'est cynique, et l'ultime cynisme pour moi de ce plan, c'est de faire passer le revenu universel d'activité que présente Macron pour le revenu universel d'existence que nous portons à Génération.
Il a repris
parce que
le
ce sont
concept...
deux logiques complètement fondamentalement différentes.
Il a repris le concept qui avait été lancé par Benoît Hamon lors de l'élection présidentielle. Pour vous, ce concept est totalement dévoyé par Emmanuel Macron ?
Oui, c'est exactement ça. C'est un dévoiement au sens où, dans le revenu universel d'activité annoncé, en fait, c'est simplement une fusion des minima sociaux, dans lesquels d'ailleurs on intègre les APL qui ne sont pas un minima social, et donc avec quand même un risque de perte en ligne, qu'il y ait beaucoup de perdants quand même à cette réforme. Mais le revenu universel d'existence, c'est pas uniquement la fusion des minima sociaux, c'est une augmentation d'abord des revenus des personnes effectivement qui n'ont pas d'autres revenus d'activité, mais surtout c'est universel au sens où toute personne y a droit à des degrés différents en fonction de ses revenus, parce qu'effectivement l'idée c'est quand même de l'adapter un peu aux revenus des personnes, mais l'idée c'est de redonner du pouvoir aux gens par rapport à leur employeur, de leur redonner du pouvoir par rapport à un employeur potentiel. Or là on est dans une logique complètement inverse, où en plus on va conditionner, a priori d'après ce qui a été dit par le président de la République, l'obtention de ce revenu universel d'activité à une recherche extrêmement active d'emploi, au fait de ne pas refuser deux offres d'emploi, même si elles ne correspondent en rien à vos qualifications. Et donc en fait, c'est la logique complètement inverse du revenu universel d'existence qui vise à donner davantage de pouvoir aux citoyens par rapport à leur vie. Et là, ce revenu universel d'activité, ça va rendre les personnes en situation de précarité encore plus dépendantes d'un employeur potentiel et des entreprises.
Le revenu universel d'existence popularisé par Benoît Hamon est toujours d'actualité, Laura Slimani ?
Il l'est, et plus que jamais, dans une société, encore une fois, où on ne crée quasiment plus d'emplois, parce qu'on arrive aux limites de la croissance, si je puis dire. Parce qu'il y a des gains de productivité qui sont tels, de par la robotisation, qu'on supprime énormément d'emplois, notamment manuels. Parce que on a besoin d'une société qui produit moins, qui consomme moins, qui passe plus de temps à prendre soin d'elle-même finalement, à prendre soin de l'environnement. On a besoin de tout ça, et le revenu universel, ça peut être une des solutions qui permet d'y parvenir. Le revenu universel, ça permet aux personnes de bénéficier d'un revenu supplémentaire tous les mois. Et donc, ça permet quoi ? De consacrer davantage de son temps à des activités sociales, associatives, environnementales, de jardinage, à s'occuper des siens, de ses parents, de ses enfants, de ses proches. Bref, et voilà, tout ça, la société en a besoin. Et par ailleurs, ça permet aussi de répondre au fait qu'aujourd'hui, l'emploi seul ne répond pas aux besoins de revenus des personnes.
Le revenu d'existence avait été aussi imaginé, par exemple, pour certains travailleurs qui exercent une activité extrêmement utile pour la société, mais qui n'est pas rémunératrice. Je pense, par exemple, aux paysans qui font du bio et qui n'arrivent pas à gagner d'argent. On dit que certains agriculteurs gagnent 200 à 300 euros par mois.
Exactement. C'est notamment pour ce type de profession, mais ça peut être aussi pour la personne qui va consacrer la moitié de sa semaine à animer des matchs de foot dans un quartier. Ce n'est pas une activité rémunérée, mais ça crée beaucoup de richesse et l'idée, c'est de valoriser cette richesse-là.
C'est la question qu'on vous pose à chaque fois. On le finance comment, ce revenu d'existence ?
Mais écoutez, quand on a créé la sécurité sociale, on ne s'est pas posé la question de comment on le finance. On a regardé ce qu'on voulait faire et on a trouvé des manières de le financer. Par la solidarité, bien sûr. Par la taxe robot, ça a été proposé par Benoît Hamon lors de l'élection présidentielle, parce que la robotisation, ça fait gagner beaucoup d'argent aux entreprises, puisqu'elles ne cotisent pas sur les robots alors qu'elles cotisent sur les emplois. Donc il n'y a pas de raison à ce que les entreprises, qui déjà vont gagner plus d'argent parce qu'elles sont plus efficaces avec des robots qu'avec des humains, en plus, ne payent pas de cotisation sociale. Donc il faut mettre en place cette taxe robot qui permettra de financer cette nouvelle sécurité sociale qu'est le revenu universel d'existence, par exemple. Et enfin, c'est un revenu universel d'existence qui, s'il bénéficiera à tout le monde, il sera bien sûr financé à mesure des moyens de chacun. Et donc ça implique effectivement davantage de progressivité dans l'impôt que nous n'en avons aujourd'hui, c'est-à-dire le contraire de ce que fait Emmanuel Macron quand il supprime l'ISF.
C'est donc tout le système qu'il faut réformer pour parvenir à ce revenu d'existence.
Oui, et en même temps, on est dans une situation où si on ne change pas tout, tout va s'effondrer, si je peux me permettre. On a une planète qui est dans un état de catastrophique, avec des catastrophes naturelles qui s'accélèrent, avec une agriculture qui, dans certains territoires, est complètement bouleversée du fait des changements climatiques, avec des mouvements de population qui vont s'accélérer du fait aussi de ce changement climatique, des inégalités sociales qui explosent. Cette société-là ne va pas bien. Et donc, il faut trouver des manières de faire aller mieux notre société. Le revenu, et ce n'est pas par des clopinettes, par des petits bouts de ficelle, des petites mesurettes qu'on changera cette société-là, qu'on la transformera. Il faut des réformes qui ont un peu d'ambition, qui sont un peu ambitieuses, aussi pour redonner envie d'y croire à nos concitoyens qui voient que les politiques, en tout cas les personnes qui sont au pouvoir, ne font pas grand-chose pour vraiment changer les choses.
Alors, autre réforme annoncée par Emmanuel Macron cette semaine, celle de notre système de santé. La mesure la plus emblématique a été la fin du numerus clausus pour les étudiants en première année de médecine. Vous qui avez été présidente du mouvement des jeunes socialistes, j'imagine que vous avez connu le stress de nombreux étudiants en première année de médecine qui étaient adhérents du mouvement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la fin de ce numerus clausus qui stoppe net des milliers de vocations de médecins chaque année ?
Oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle pour le coup. Est-ce que c'est une nouvelle suffisante ? Je ne pense pas. Mais c'est une bonne nouvelle parce que effectivement, il y a des besoins énormes sur les territoires en termes de médecins. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à répondre à ces besoins. Après, faut savoir que cela n'aura d'effet que dans 10-20 ans, cette réforme, puisque les études de médecine sont très longues.
D'autant que ça va commencer en 2020 et pas en 2018.
Donc, exactement. Donc, on s'inscrit quand même sur du très long terme. Aujourd'hui, il y a des urgences en matière de santé auxquelles ce plan santé ne répond pas. La situation des hôpitaux. Le fait que la tarification à l'acte aujourd'hui appliquée dans les hôpitaux impose des logiques entrepreneuriales à un service public qui est celui de l'hôpital. On ne peut pas demander à un hôpital d'avoir une logique de rentabilité quand ce qui est en jeu, c'est la santé des gens, c'est la vie des gens. Voilà, qu'est-ce que c'est que demander à un hôpital qui a dans sa main la vie de milliers de personnes, d'avoir une logique de rentabilité. Qu'est-ce qui est répondu aux soignants dans les hôpitaux psychiatriques qui sont aujourd'hui en grande souffrance ? Je l'ai vu près de chez moi, à Rouen, au centre hospitalier du Rouvray, avec une grève qui a quand même dû se transformer en grève de la faim, qui a duré 15 jours, pour avoir enfin une réponse de la ministre, parce qu'elle a été mise dos au mur. Mais il y a Rouen, mais il y a aussi beaucoup d'autres centres hospitaliers. Au Havre, c'est compliqué, et partout en France, c'est compliqué. Donc voilà, il n'y a pas de réponse qui est apportée à ces soignants. Et puis enfin, moi, je pose la question quand même quand on voit aujourd'hui effectivement l'état des hôpitaux en matière d'accès aux soins et le fait que les services des urgences sont complètement engorgés. À un moment donné, il faut que tout le monde contribue à l'accès aux soins de toutes et tous. Et donc, moi, la question de la médecine libérale et de la liberté totale d'installation doit se poser à un moment donné, si on veut que toutes et tous, quel que soit l'endroit où on vit et son porte-monnaie, accèdent aux soins.
Vous êtes en train de nous dire les médecins qui s'installent dans le sud, là où il fait beau et chaud, devraient aller, par exemple, dans les quartiers prioritaires de la ville où on manque de médecins, dans les zones rurales.
À partir du moment où les médecins bénéficient d'une formation qui est quand même dans laquelle la société entière investit, puisque c'est l'enseignement public qui forme les médecins, pourquoi on ne demanderait pas à ces médecins de consacrer un peu de leur carrière à un exercice qui soit moins libre, en tout cas en termes de localisation?
Ils le font lors de leurs années de médecine à l'hôpital en étant internes.
Oui,
vous, ce que vous dites, Laura Slimani, c'est qu'une fois qu'ils exercent en tant que médecins qui sont dans des cabinets, ils doivent accepter des sacrifices.
Mais je pense que c'est juste... Moi, je pense qu'il faut poser la question. Voilà. Et cette question, on ne la pose pas parce qu'on sait très bien qu'elle est très compliquée avec la médecine libérale, avec l'ordre des médecins, etc. Moi, je pense qu'il faut poser cette question-là parce que c'est l'une des réponses essentielles aux inégalités d'accès aux soins auxquelles on fait face aujourd'hui. Donc, c'est une situation qui doit nous interroger collectivement, qui doit nous mobiliser collectivement avec, effectivement, le corps médical, avec les médecins, en travaillant ensemble. Mais je constate que cette question ne trouve pas véritablement de réponse dans ce plan.
À Rouen, où vous êtes élue, on connaît aussi le phénomène des déserts médicaux.
À Rouen même, on ne peut pas parler d'un désert médical, mais par contre, il y a des inégalités d'accès aux soins qui sont très fortes. Et d'ailleurs, effectivement, le service des urgences de Rouen est engorgé, mais comme tous les services des urgences. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez quasiment plus de médecins disponibles la nuit, vous n'avez quasiment plus de médecins disponibles le week-end. Et c'est bien normal aussi que les médecins veuillent profiter de leur nuit et de leur week-end et les passer en famille. Mais du coup, il faut trouver d'autres solutions pour faire en sorte qu'il y ait qu'il y ait accès à une médecine de ville dans ces horaires-là. Parce que sinon, les personnes vont aux urgences, ce qui a un coût quand même beaucoup plus élevé pour d'abord la société et pour l'hôpital, mais ce qui en plus ne permet pas forcément un accueil optimal et puis encore une fois, pèse sur les budgets des hôpitaux. Donc il faut développer d'autres solutions qui impliquent à un moment donné, si ça ne fonctionne pas par le volontariat, qu'il y ait un peu de contraintes pour que cet accès aux soins il soit universel et permanent.
Laura Slimani, cette semaine, Gérard Collomb a officiellement lancé la police du quotidien. Le ministre de l'Intérieur a parlé de reconquête républicaine des quartiers. Cette police se veut sur mesure, mieux équipée, plus connectée et plus proche des attentes des concitoyens. Vous qui avez milité pour la fin des contrôles aux faciès, est-ce que vous avez le sentiment que cette police va contribuer à l'apaisement dans les quartiers populaires ?
D'abord, la police de proximité, la gauche l'avait introduite, la droite l'avait supprimée. Je veux dire, bien sûr que c'est bien que les forces de l'ordre soient présentes sur l'ensemble du territoire et qu'il n'y ait pas de zone de non-droit ou qu'il n'y ait pas de zone, en tout cas, où la police n'a pas le droit d'aller, bien sûr. Ensuite, est-ce que ça va résoudre la problématique de quartiers et de jeunes issus de quartiers qui sont aujourd'hui exclus de tout un tas d'espaces dans la société, qui subissent des discriminations à l'embauche, qui subissent des discriminations dans l'accès au logement. Est-ce que ça va, si vous voulez, résoudre ces problèmes-là? Non. Et ça nécessite des politiques autres de lutte contre les discriminations, de mobilisation nationale contre ces discriminations. Et puis de généralisation du testing pour mettre aussi les acteurs privés face à leurs responsabilités sur ces sujets-là. Sur la question des contrôles aux faciès, moi je vois pas en quoi ça va résoudre la situation. Peut-être que ça va, mais vous savez, enfin, les jeunes qui se font contrôler et qui racontent leur expérience, mais bien souvent, ce sont des policiers qu'ils connaissent qui les contrôlent. C'est pas un policier qu'ils connaissent pas, c'est le policier qui est dans son quartier, dans le quartier.
Donc il y a quelque chose d'absurde selon vous dans ces contrôles.
Mais bien sûr, mais il y a une volonté de dire qui décide et de montrer qui décide. Et il y a une forme aussi d'humiliation qui est très fortement ressentie par ces personnes qui se font contrôler de manière très régulière. Et donc c'est pas la police de proximité qui va résoudre ça. C'est, encore une fois, une attestation de contrôle d'identité qui permette de laisser une trace sur ces contrôles d'identité. Parce que quand vous laissez une trace, vous réfléchissez à deux fois avant de faire un contrôle d'identité qui ne sert à rien. Et aujourd'hui, la plupart des contrôles d'identité ne servent à rien d'autre qu'à humilier les jeunes, en l'occurrence, qui les subissent.
Donc le sujet est toujours d'actualité, puisque vous aviez milité pour ce récépissé lors des contrôles d'identité lorsque François Hollande était au pouvoir, vous le souteniez à l'époque, mais vous n'avez pas obtenu gain de cause.
Non, tout à fait. Nous, malgré la volonté du Premier ministre Jean-Marc Ayrault de la mettre en œuvre, nous n'avions pas réussi à le faire, notamment parce que Manuel Valls, en tant que ministre de l'Intérieur à l'époque, s'y était opposé fermement. Ce que je regrette profondément, parce que ça aurait été une opportunité pour la gauche à l'époque de montrer qu'elle était du côté de ces jeunes qui, aujourd'hui, subissent des discriminations.
Laura Slimani, vous êtes personnellement engagée sur les questions européennes. Vous avez présidé le mouvement des jeunes socialistes européens. Est-ce que l'Union européenne telle que l'ont voulu ses fondateurs est aujourd'hui menacée ?
Oui, elle est menacée très clairement de toute façon, puisque vous avez un État qui a décidé d'en sortir. Donc à partir de ce moment-là, la dynamique, elle n'est pas positive. Mais la question, c'est pas tant est-ce que l'Europe des pères fondateurs est menacée que est-ce que l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui est menacée et est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble avec nos concitoyens européens ? Et donc aujourd'hui, nous, à Génération, on a fait le choix de porter justement pour ces élections européennes un projet qui soit un projet européen. Avec Yanis Varoufakis, mais aussi avec d'autres acteurs qui sont présents dans différents pays européens et qui veulent une gauche qui soit assumée, qui soit écologiste, qui soit sociale et qui porte un projet européen différent. Parce que pour nous, il n'y a pas de sortie heureuse de l'Union européenne, comme peuvent le laisser prétendre un certain nombre de personnes de gauche.
Vous pensez à Jean-Luc Mélenchon ?
Oui, en l'occurrence, il n'y a pas de sortie heureuse de l'Union européenne. Il n'y a que des sorties malheureuses de l'Union européenne. Et donc, nous, la question, c'est comment on reste dans l'Union européenne tout en l'en faisant et en transformant cet espace pour que ça soit un espace de progrès social, de progrès écologique, de solidarité entre les citoyens, de solidarité vis-à-vis des personnes exilées aujourd'hui sur le continent européen. Et donc, effectivement, ces élections européennes, ça doit être l'occasion de porter ce projet fortement pour répondre à une Europe qui dont on a l'impression qu'elle est en train de s'effriter, de s'effondrer et qui fait face à des assauts xénophobes et nationalistes extrêmement puissants.
Pour faire aimer l'Union européenne, il faut que les habitants ressentent ce que cette Europe leur apporte. On a le sentiment que l'Europe, c'est plutôt de la contrainte.
L'Union européenne a été un vecteur de progrès sur un certain nombre de sujets, je pense quand même à la réglementation environnementale, même si aujourd'hui on aimerait davantage de fermeté par rapport à un certain nombre de sujets, notamment le glyphosate, mais c'est un exemple parmi d'autres. Elle a apporté aussi des avancées en matière d'égalité, femmes-hommes, notamment d'égalité salariale, donc il faut aussi être capable de voir ce qui a été positif. Mais aujourd'hui, il y a un sentiment d'abandon des citoyens européens. Il y a le sentiment que leurs votes à l'échelle européenne n'ont jamais été entendus. Et je parle notamment de 2005 et du vote sur la Constitution européenne, le traité constitutionnel européen, qui a été rejeté en France, en Belgique, et puis qui finalement a été adopté par des biais détournés par la suite. Donc voilà, la question c'est comment on prend en compte cette parole des citoyens. Nous, on propose à ce qu'il y ait une convention démocratique qui suive les prochaines élections européennes, à ce que les citoyens soient véritablement consultés, mais pas uniquement consultés, que leur parole soit entendue. Parce que ça sert à rien de faire des consultations, comme j'ai vu qu'Emmanuel Macron en faisait autour de l'Union européenne, si c'est pour que derrière, la voix des citoyens ne compte pas.
L'invitée de Pluriel est Laura Slimani, conseillère municipale de Rouen, membre de Génération. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel avec Laura Slimani, conseillère municipale de Rouen, membre de Génération. Avant la pause, nous parlions du sujet de l'Europe avec ces élections qui se profilent en mai 2019. Il y a une troisième voie entre les populistes et les progressistes européens que souhaite incarner Emmanuel Macron.
Pour moi, cette voie, c'est la voie de... Comment dire ? C'est la voie du vide, quoi. C'est la voie de la continuité, la voie du statu quo. Aujourd'hui, si on veut sauver l'Europe, il faut la changer radicalement. Si on continue comme ça, là vous avez le Royaume-Uni, mais demain vous aurez, que sais-je, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, voilà, qui décideront de partir, ou qui décideront de pourrir de toute façon tellement le fonctionnement interne de l'Union européenne qu'on n'arrivera plus à rien faire. Donc il faut changer radicalement l'Union européenne pour aujourd'hui espérer la sauver. Emmanuel Macron, on peut pas avoir des propositions tièdes sur le sujet.
Emmanuel
c'est pas possible.
Macron vous semble tiède, il n'est pas le meilleur défenseur de l'Europe, puisque là, on a bien compris comment se passerait l'élection européenne. Ça va être finalement un choix entre des partis nationalistes, peut-être même xénophobes, et puis des partis démocratiques, républicains.
Bah, moi, je m'inscris en faux contre ce choix, parce que je pense que c'est le choix que veulent nous imposer et les nationalistes et les néolibéraux.
Avec aussi un réflexe du vote utile qui va évidemment avoir lieu.
Oui, mais à un moment donné, c'est aussi le choix que veulent nous imposer les nationalistes et les néolibéraux, c'est-à-dire de nous dire que finalement, il n'y a le choix qu'entre l'euro-béatitude et la xénophobie. Mais non, enfin, finalement, la voie, la troisième voie, ou la voie du milieu, c'est celle de la gauche qui est progressiste, qui est écologiste et qui est européenne. Européenne, parce que la solidarité entre les nations, c'est un acquis extrêmement précieux de l'histoire, parce qu'on a besoin d'être ensemble pour être fort sur les questions écologiques, pour être fort sur les questions de défense, pour être fort sur les questions sociales, pour être fort sur les questions économiques à l'échelle internationale. Donc on a besoin de l'Union européenne pour cela. Et c'est la seule solution viable pour l'Union européenne demain. Parce que si on continue de la même manière, c'est-à-dire avec des politiques d'austérité budgétaire, avec des politiques de libéralisation du marché du travail, on ne va générer que de la frustration, davantage de précarité dans le travail des gens, des salaires qui continuent de stagner, des services publics qui continuent de disparaître. Et je ne dis pas que ça, c'est la faute de l'Union européenne. Je pense que ça, c'est la faute des gouvernements qui ont présidé à l'Union européenne ces 10, 20, 30 dernières années et qui n'ont pas, alors qu'ils en avaient les moyens, décider de changer le cours des choses. Et donc là, c'est à nous et aux citoyens de changer le cours des choses lors des prochaines élections européennes. Et ils en ont la possibilité.
Vous avez le sentiment que les lobbies ont empêché l'Union européenne de se réformer dans le sens que vous préconisez ?
En tout cas, oui, on ne peut pas nier qu'il y a des lobbies extrêmement puissants à l'échelle européenne qui obtiennent quasiment toujours gain de cause. Le lobby pharmaceutique, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres.
Le lobby des GAFA, Google, Amazon.
Oui, même si l'Union européenne, alors je pense que récemment, c'est peut-être un peu moins le cas, mais a quand même été un peu précurseur par rapport à d'autres pays européens sur la question de la protection des données personnelles. Mais il y a besoin d'être fort. Mais en même temps, quand elle le veut, l'Union européenne, elle peut aussi être forte. C'est Apple qui a été condamné par la Commission européenne par rapport à cette histoire d'impôt qui ne payait pas, d'évitement de l'impôt en s'implantant en Irlande, qui a un taux d'impôt sur les sociétés extrêmement faible. Et à un moment donné, la Commission européenne a exigé à ce que Apple paye son dû. Et donc l'État peut. Aujourd'hui aussi, et l'Union européenne est un regroupement d'États, les États peuvent aussi exiger leur dû auprès des grandes multinationales. Mais encore faut-il qu'ils aient la volonté de le faire, la volonté suffisante de le faire. Et je pense que Emmanuel Macron, au vu du fait qu'il a plié notamment sur le glyphosate, et qu'il plie à chaque fois qu'il y a un rapport de force avec l'industrie et avec des grands groupes économiques, je pense qu'il n'a pas les épaules pour faire face effectivement à ces lobbies.
Est-ce que vous avez le sentiment que si le mouvement que vous incarnez gagnait ces élections, ce qui paraît improbable au vu des sondages, mais imaginons que vous remportiez ces élections, est-ce que ça obligerait Emmanuel Macron à changer de politique ?
Mais oui, bien sûr, puisque ces élections, ça va aussi être un signal par rapport à la politique d'Emmanuel Macron. Bien sûr, c'est des élections européennes et notre objectif doit être de changer les choses à l'échelle européenne. Mais cette élection, ça doit aussi être une manière pour les Français de montrer tout le mal qu'ils pensent de la politique d'Emmanuel Macron, puisque finalement, les politiques qui sont menées en France, ce sont des politiques qu'il va poursuivre et soutenir à l'échelle européenne, encore une fois, sur les politiques d'austérité, de rigueur budgétaire, comme ils aiment le dire. Mais moi, je préfère parler d'austérité parce que c'est plus, ça représente plus la réalité de ces politiques en matière de précarisation du marché du travail, ce qui a été l'un des premiers actes de politique d'Emmanuel Macron au gouvernement. Donc sur tous ces sujets, Emmanuel Macron, finalement, comment dire, et il y a un parallélisme entre la politique d'Emmanuel Macron et la politique qu'on continuera d'avoir à l'échelle européenne si ce n'est pas une autre force politique qui gagne ces élections.
Laura Slimani, l'Espagne s'est montrée généreuse avec les réfugiés alors que l'Italie s'enfonce dans le populisme. Est-ce que les humanistes ont encore une chance de convaincre les électeurs qu'il faut se montrer humain avec les réfugiés? Comment on peut traiter ce sujet sereinement alors qu'on voit qu'il y a quand même une hystérisation des débats sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision?
Mais je pense que d'abord, il faut tenir bon face à l'extrême droite. Il faut tenir bon face à celles et ceux qui voudraient nous faire croire que les migrants sont la raison de tous les malheurs du monde et notamment de ceux de la France. Et moi, je regrette que le président de la République n'ait pas un discours aussi positif sur les personnes étrangères aujourd'hui que celui qu'il pouvait avoir lors de l'élection présidentielle, par exemple. Parce que on ne peut pas se prétendre humaniste et effectivement refuser qu'un bateau avec des personnes migrantes en situation de détresse puisse accoster en France et finalement mettre en sécurité ces personnes.
L'affaire de l'Aquarius vous a choqué ?
Bien sûr, elle m'a choqué et elle a choqué beaucoup de Français, je pense. Et donc si, à un moment donné, le début... si vous voulez convaincre les Français de quelque chose, c'est-à-dire que il n'y a pas de risque majeur à accueillir des personnes migrantes, voire c'est une richesse et il faut s'en saisir. Si vous voulez convaincre les Français de cela, vous ne pouvez pas, par vos actes, montrer l'inverse.
Mais est-ce que c'est un discours qui peut encore être entendu aujourd'hui? Est-ce que les Français sont capables d'entendre un tel discours?
Moi, je pense que les Français sont de moins en moins capables de l'entendre parce qu'il est de moins en moins porté aussi par les politiques. Et les politiques ont un rôle prescripteur dans la société. Donc, il faut assumer cela et il faut dire la vérité, c'est-à-dire que l'immigration ne coûte pas d'argent à la France plus qu'elle n'en rapporte et que ces personnes fuient la guerre, fuient des conditions de vie extrêmes et n'ont pas d'autre choix, ne font pas cela par plaisir. Et c'est notre devoir, effectivement, d'humain que de les accueillir dignement.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que des représentants de la gauche allemande commencent à tenir un discours anti-migrant des dissidents du parti Die Linke, qui est un peu l'équivalent de la France insoumise?
Ben, moi, ça m'attriste parce que c'est vraiment une solution de facilité que de vouloir opposer les misères entre elles. Et c'est clairement la stratégie de ce parti-là, enfin en tout cas de ces personnes, parce que c'est pas l'ensemble de Die Linke bien sûr qui tient ce type de propos, mais c'est voilà de profiter de la rancœur que des personnes ont pu emmagasiner du fait de la dureté de leurs conditions de vie pour leur montrer, leur désigner un bouc émissaire. C'est trop facile. Et la gauche, c'est pas ça. La gauche, c'est à un moment donné assumer qu'il y a une dose de complexité et que finalement, eh ben, cette égalité entre humains, elle est première à tout le reste. Mais par ailleurs, il faut apporter des solutions aussi. Il faut apporter des solutions à la question de l'exclusion, à la question de l'injustice sociale que ressentent un grand nombre de personnes, à la question du chômage par la réduction du temps de travail, par l'introduction de nouvelles solutions comme le revenu universel, par exemple. Parce qu'effectivement, si on n'apporte pas de solution, on crée le terreau dans lequel peuvent puiser et s'inspirer des personnes mal intentionnées et les xénophobes.
Que vous a inspiré la polémique qui a été lancée par Éric Zemmour, qui s'est permis de juger les prénoms des citoyens français en estimant qu'une chroniqueuse avait un prénom qui était une insulte à la France?
Mais c'est lui qui ne connaît pas la France. Genre, c'est Éric Zemmour qui est une insulte à la France. Moi, je ne sais pas comment on peut aujourd'hui se prétendre français et dire que ça plaît Absatou, que ça plaît Farid, que ça plaît Rabira, que ça plaît Nora, Karim. Ce n'est pas la France. Enfin, bien sûr que c'est la France. Qui est-ce qui a gagné la Coupe du Monde? Aujourd'hui, vous avez des personnalités. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui la France au niveau de la francophonie? Laïla Slimani. Moi-même, bon, je m'appelle Laura Slimani, donc vous savez que ce sujet me touche particulièrement, mais je veux dire, c'est Éric Zemmour qui est une insulte à la France et il faudrait même pas lui accorder d'importance. Le problème, c'est que quand on est soumis à ce type d'attaque, parce que là, c'est devant des millions de téléspectateurs, mais en réalité, voilà, je pense que toutes les personnes aujourd'hui qui ont des origines étrangères, entre guillemets, et qui sont françaises, subissent ce genre d'attaque, soit dans la rue, soit par des regards, soit sur les réseaux sociaux. Et ça fait mal. Et il faut pas nier non plus le fait que ça fasse mal.
Vous avez le sentiment que de tels discours peuvent encourager des passages à l'acte ?
bien sûr, ça conforte un certain nombre de personnes dans leur haine. Et donc, c'est pour ça que c'est effectivement extrêmement dangereux. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Audrey Pulvar quand elle dit qu'il ne faut pas que, eh bien, on invite Éric Zemmour sur des plateaux télé. Voilà, on n'a pas à inviter un prêcheur de haine sur des plateaux télé.
Il y a une responsabilité de la part des producteurs d'émissions de télévision et de radio.
Oui, il y a une responsabilité parce qu'on ne peut pas aujourd'hui nier le fait que tout ça a une influence sur la société.
Laura Slimani, lors de la fête de l'UMA la semaine dernière, on a vu les communistes, les membres de Génération dont Benoît Hamon, des dirigeants écologistes en train de se parler. Il y avait aussi des élus socialistes. Vous avez été membre et président du MJS. Est-ce que vous croyez à la formation d'une nouvelle gauche plurielle pour espérer un jour reconquérir le pouvoir, en tout cas en attendant déjà trouver une forme d'union pour les élections européennes? Parce que pour l'instant, vous allez à ces élections de manière totalement éparpillée.
Oui, après, les choses ne sont pas encore faites. On est en septembre. Les élections, c'est voilà, à la toute fin du mois de mai. Et on a un petit peu de temps quand même pour se rapprocher. Et j'ai espoir qu'effectivement, ce rapprochement, il aura lieu. Parce qu'il en va de la survie de la gauche. Il en va de la survie de la gauche. Voilà. Et de la question est de savoir pour les dirigeants de ces différentes formations, est-ce que leur avenir personnel est plus important que notre avenir collectif à tous?
Yannick Jadot avait montré le chemin lors de l'élection présidentielle, puisqu'il s'était désisté en faveur de Benoît Hamon. Est-ce que Benoît Hamon pourrait lui rendre la politesse, ou en tout cas ne pas être tête de liste et intégrer une liste avec Europe Écologie
mais
des Verts?
C'est pas une question de politesse, mais à un moment donné, on peut pas se mettre autour de la table avec un prérequis. Quand on se met autour de la table, il faut le faire sincèrement. Si on met d'ores et déjà des conditions qui font que ça n'arrivera pas, on peut pas prétendre être dans une démarche sincère. Après, encore une fois, il faut continuer de discuter parce qu'aujourd'hui, l'écologie, effectivement, c'est une composante essentielle du changement qu'il faut qu'on apporte à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Et donc, il faut bien sûr continuer de se parler avec l'ensemble des forces politiques qui souhaitent participer à ça, et aussi avec les citoyens et les citoyennes, parce qu'à un moment donné, c'est aussi notre patrimoine commun, la gauche.
Laura Slimani, la dernière fois que je vous ai reçue sur ce plateau, vous étiez socialiste. Alors, vous êtes toujours socialiste, mais plus membre du PS.
Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus être socialiste sans être écologiste. Donc moi, je suis éco-socialiste. Il y a plein d'autres choses d'ailleurs. Mais oui, non, je ne suis plus membre du Parti Socialiste. Ça fait un an maintenant d'ailleurs que j'ai quitté le PS et que je suis engagée dans Génération, qui est une nouvelle aventure collective aux côtés de Benoît Hamon et d'autres, que nous menons avec de nouvelles personnes, mais aussi avec des personnes qu'on connaît depuis plus longtemps, pour essayer de construire autre chose, un mouvement plus horizontal, un mouvement beaucoup plus écologiste que le Parti Socialiste, et puis un mouvement qui vise à impulser une nouvelle dynamique à gauche.
Mais vous avez le sentiment que ça prend, je dirais, ce mouvement? Il y a une dynamique qui a été enclenchée?
Écoutez, sur le terrain, oui, nous, à Rouen, on a un groupe qui fonctionne très bien, qui organise un certain nombre d'événements régulièrement, et on voit de nouvelles personnes, et on voit que le discours, il intéresse. Il y a aujourd'hui envie, il y a une volonté chez les citoyens, il y a un besoin de sincérité dans l'engagement. Et je pense que, à Génération, notre objectif, c'est aussi de montrer qu'on peut être en politique, qu'on peut être engagé en politique et être sincère. Et je pense qu'il y a besoin de recréer cette confiance. Et il me semble que Génération contribue à renouer cette confiance vis-à-vis des citoyens. Mais c'est un travail de longue haleine, et ça nécessite aussi de travailler le plus collectivement possible, encore une fois, parce que faire son truc dans son coin, effectivement, ça ne sert à rien, et c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est.
Génération est en train de préparer une plateforme, un programme pour changer la société. Voilà, j'imagine que c'est aussi l'occasion de travailler. C'est un laboratoire.
Bien sûr, bien sûr. On a commencé de toute façon. Ça fait à peine un an qu'on existe. Et encore en juillet dernier, enfin jusqu'à décembre dernier, nous étions encore le mouvement du 1er juillet.
Emmanuel Macron est devenu président de la République presque un an après avoir créé son parti politique.
Oui, mais bon, bien sûr, mais nous, on souhaite prendre le temps de construire une base robuste pour ne pas s'effondrer au moindre coup de vent. Donc voilà, on préfère aussi prendre un peu de temps. Et donc, nous avons aujourd'hui des statuts, une équipe nationale qui va bientôt être annoncée, qui est en ce moment soumise au vote des membres. Et puis, des travaux thématiques, effectivement, qui foisonnent. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir construire un projet qui fasse sens pour les Français et puis à l'échelle européenne. Et d'ailleurs, on a un projet qu'on construit encore plus collectivement à l'échelle européenne, puisqu'il se construit aussi avec nos partenaires européens.
Alors, vous êtes élue à Rouen. Laura Zahra Slimani. Jusqu'à l'année dernière, vous étiez en charge de la jeunesse au sein de cette municipalité. Votre délégation vous a été retirée par le maire socialiste Yvon Robert. C'est un effet collatéral de l'élection présidentielle et des législatives ?
Oui, tout à fait. Je le regrette, mais c'était la décision du maire et il reste souverain sur les délégations qu'il donne ou pas aux personnes membres de son conseil municipal. Mais je reste membre du conseil municipal. J'ai rejoint le groupe des écologistes avec lequel j'étais plus en phase, effectivement, depuis mon départ du Parti socialiste. Et je contribue toujours à la politique municipale, mais d'autres manières.
Les socialistes, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont compatibles avec En Marche au niveau local ? On se demande comment ça va se passer, cette élection municipale, parce qu'on a finalement, on est face à quelque chose de totalement nouveau.
C'est aux socialistes de répondre à cette question. En tout cas, moi, voilà, Génération, on n'est clairement pas compatible avec En Marche au niveau municipal, ni au niveau national d'ailleurs, parce qu'on propose des options de société totalement différentes. Mais ce qui sera important, effectivement, en 2020, lors des élections municipales, c'est de continuer. Et à Rouen, il faut qu'on réussisse à travailler le plus collectivement possible à gauche pour pouvoir continuer de mener des politiques sociales, des politiques environnementales, des politiques de vivre ensemble qui favorisent le vivre ensemble. Et donc, ça va nécessiter beaucoup de travail, oui, au vu de la configuration politique locale, mais c'est partout en France. C'est la même chose partout en France. Encore une fois, ça remet la question de l'union de la gauche au cœur de la discussion.
Alors, parlons un petit peu de cette ville de Rouen. L'opposition de droite se prépare à l'alternance dans le cadre de ces municipales. Quelles ont été, selon vous, les réussites de cet exécutif et quels sont les défis pour la capitale de la Normandie pour les années qui viennent ?
Écoutez, les réussites, c'est que d'abord, on a une ville aujourd'hui qui se transforme, voilà, qui se transforme énormément, qui devient de plus en plus accueillante, à la fois vis-à-vis de ses propres habitants et puis vis-à-vis de l'extérieur, et c'est fondamental. On a une ville aussi qui est chaque jour plus écologique, chaque jour plus respectueuse de l'environnement, chaque jour plus accueillante pour les cyclistes, voilà, chaque jour plus écologiste aussi, et je pense aux quais bas rive gauche qui ont été réaménagés de manière remarquable pour en faire un espace de respiration au sein de la ville, parce que c'est vrai que c'est des questions qui se posent de plus en plus, y compris et notamment avec la question des chaleurs estivales qui semblent être de plus en plus fortes. Et c'est une ville aussi qui fait beaucoup en matière culturelle et qui a beaucoup fait ces dernières années en matière d'accès à la culture des tout petits, en matière concernant la mise en place d'activités périscolaires de manière gratuite auprès de tous les enfants de la commune et de qualité. Voilà, c'est tout ça, c'est un dynamisme finalement qui est une émulation collective qui se poursuive et qui s'amplifie d'année en année,
et
que moi je trouve remarquable.
L'opposition de droite pointe la saleté de Rouen et les travaux qui rendent la vie des habitants impossible. On entend ça aussi à propos de Paris.
Oui, mais en même temps, effectivement, je veux dire, on peut aussi ne rien faire et ne rien changer et ne rien bouger et tout sera propre et calme. Mais voilà, nous, on assume aujourd'hui de transformer cette ville de Rouen qui a justement trop longtemps été un peu endormie, sans forcément qu'il y ait de transformation de son centre-ville. Et nous, on veut que le centre-ville de Rouen, que la ville de Rouen, elle soit agréable pour toutes et tous, pour les piétons, pour les cyclistes et effectivement pour les voitures. Mais on veut aussi qu'il y en ait de moins en moins pour que cette ville justement soit la plus agréable possible.
Dernière question, car je sais que Génération est sensible à la question israélo-palestinienne. Le président Abbas a été reçu à l'Élysée ce vendredi avant une réunion sur la Palestine à l'ONU. Les Palestiniens vivent une situation difficile aujourd'hui. Que devraient faire la France et l'Union européenne ?
La France pourrait reconnaître l'État palestinien et ça permettrait effectivement de soutenir les Palestiniens dans ce rapport de force qui est de plus en plus dur vis-à-vis de l'État d'Israël. Moi, j'étais en Palestine il y a 2 ans, il me semble. J'ai vu la manière dont on contraignait les Palestiniens aujourd'hui à vivre. C'est d'une violence incommensurable. Et donc, il faut que la France, parce qu'elle incarne quelque chose sur la scène internationale, prenne les devants sur cette reconnaissance de l'État palestinien, comme d'ailleurs l'avait voté le Parlement français sous la mandature précédente.
Merci Laura Slimani. Je rappelle que vous êtes conseillère municipale à Rouen et membre de Génération. Bonsoir.
Merci.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.